France Culture, le journal est présenté par Marie-Hélène Duvigneau.
Bonjour à tous, il est 9h. Violent bombardement sur l'Ukraine, accusé par Vladimir Poutine d'être derrière l'attentat de vendredi soir en banlieue de Moscou. L'armée polonaise a relevé son niveau d'alerte. Après la crise politique provoquée par le report du scrutin, les Sénégalais élisent aujourd'hui leur prochain président. Un scrutin qui pourrait trancher entre continuité et changement radical. La campagne des européennes, la tête de liste Place Publique PS Raphaël Glucksmann, qui semble s'installer comme favori à gauche, tient un meeting aujourd'hui en banlieue toulousaine. Et puis, la Vierge du chancelier Rollin de Van Eyck revient au Louvre après plus de 2 ans de restauration. C'est la seule œuvre du maître flamand possédée par la France. Nouvelle nuit de bombardement en Ukraine. Plusieurs villes et régions du pays ont été visées au petit matin par des frappes aériennes russes, notamment Kiev et la région de Lviv, où nous retrouvons notre correspondant en Ukraine, Camille Magnard. Alors Camille, c'est la 3e vague de frappes russes en 4 jours.
Oui, l'alerte aérienne a duré plus de 2 heures au petit matin. Une douzaine de missiles ont visé Kiev sans faire de victimes ni de dégâts. Tous ont été abattus en vol. On rapporte des explosions également au-dessus de plusieurs villes à travers le pays. Kryvyi Rih, Zaporizhia, Khmelnytsky notamment, mais surtout dans l'ouest, la région de Lviv où je me trouve. De sources officielles, 20 missiles et 7 drones ont tenté d'atteindre des cibles stratégiques, des dépôts d'armes qui arrivent d'Europe ou bien des infrastructures du réseau électrique, comme ça a été le cas vendredi matin. Mais apparemment, tous les missiles et drones ont été abattus, là aussi en plein vol, par la défense anti-aérienne ukrainienne qui semble avoir été au rendez-vous la nuit dernière, alors qu'elle avait été critiquée vendredi matin quand il y avait eu cette vague plus forte encore d'attaques aériennes russes. Il faut dire qu'après l'attaque terroriste de Moscou vendredi soir et les accusations portées par le Kremlin contre l'Ukraine, tout le monde s'attendait ici à ce que les Russes frappent à nouveau massivement les villes ukrainiennes. La défense anti-aérienne avait donc été mise en alerte maximum et même l'armée de l'air polonaise, qui est basée tout près de la région de Lviv, de l'autre côté de la frontière, a fait décoller en urgence ses avions de chasse au petit matin parce qu'elle constatait une activité très forte des Russes près donc de sa frontière. C'est rare et ça en dit long sur la tension qui règne ici autour de l'intensification donc des frappes russes sur l'Ukraine.
Camille Magnard, à Lviv. Et parmi les conséquences de cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, il y a, vous le savez, l'adhésion de la Suède à l'OTAN et la remilitarisation à marche forcée du pays. Une politique dénoncée par les principales ONG suédoises œuvrant pour le désarmement qui se sont vues retirer leurs subventions publiques par le gouvernement de droite et d'extrême droite. À Stockholm, Carlotta Morteo.
Sanctionnés pour leur prise de position anti-OTAN. Quand le monde se met à dépenser davantage dans le militaire, ça se termine toujours en guerre. On aurait préféré voir la Suède se faire le porte-parole de la paix.
Malin Nilsson, secrétaire générale de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté.
Il est clair que le gouvernement actuel ne veut pas soutenir le débat d'opposition sur les questions internationales, la police et la sécurité ici en Suède. Il n'y a d'ailleurs eu aucune discussion sérieuse concernant l'OTAN sur les concessions à faire pour faire partie de cette alliance.
Grand producteur d'armement, allié tacite des États-Unis, la Suède a pourtant toujours choyé son image de pays neutre et pacifiste. Pour Malin Nilsson, le changement de visage s'assume aujourd'hui sans phare.
Depuis plus de 10 ans, on surfe sur cette image. Le masque est tombé. Maintenant, le gouvernement estime qu'il n'a même pas besoin de faire semblant de soutenir les ONG antimilitaristes et le débat d'idées. Il dit ouvertement, ce qu'on veut, c'est remilitariser et faire du commerce avec des pays, peu importe qu'ils soient des démocraties ou pas.
Au total, la Suède versait moins de 2 millions d'euros par an à 18 organisations pour la paix, une goutte d'eau par rapport aux plus de 10 milliards qu'elle va débourser pour sa défense en 2024.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, était hier devant le poste frontière de Rafah côté égyptien. Il a appelé à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas et a alerté sur le blocage de l'aide humanitaire à Gaza, mais aucun signe d'apaisement en vue. Au 6e jour de son opération contre le complexe hospitalier Al-Shifa à Gazaville, l'armée israélienne a au contraire assuré qu'elle la poursuivrait jusqu'à la capture du dernier terroriste. Environ 7 millions de Sénégalais appelés aux urnes ce dimanche pour élire leur prochain président. Un premier tour qui se tient avec un mois de retard. Le scrutin avait été reporté par le président sortant Macky Sall début février. Une décision qui avait plongé le pays dans une grave crise politique. Les enjeux de cette élection avec notre envoyé spécial à Dakar, Omar Ouaman.
Ils étaient 19, ils ne sont plus que 17 candidats, dont une seule femme, un record dans l'histoire du Sénégal, un scrutin inédit. Car pour la première fois, le président sortant n'est pas candidat à sa succession, ce qui rend l'issue de cette élection totalement incertaine. Après un processus électoral chamboulé, les candidats ont dû faire campagne au pas de course durant seulement 2 semaines au lieu de 21 jours. On s'attend à un duel entre les deux grands favoris, le candidat de la coalition au pouvoir, Amadou Ba, désigné par le président Macky Sall. Amadou Ba s'inscrit donc dans la continuité face à son principal adversaire, Bassirou Diomaye Faye, le candidat anti-système, bras droit du chef de file de l'opposition, Ousmane Sonko, écarté de la course présidentielle. Il prône la sortie du franc CFA, la renégociation des accords de pêche et de défense ou encore la fin de l'emprise économique de la France. Un programme de rupture qui séduit la jeunesse sénégalaise dans un pays où 75% de la population a moins de 35 ans.
À 9h et bientôt 6 minutes, on en vient à la campagne pour les élections européennes. À gauche, il s'installe au fil des semaines comme le favori des sondages devant les listes des insoumis, des écologistes ou encore des communistes. Raphaël Glucksmann tient un meeting près de Toulouse cet après-midi. Ambition de la tête de liste Place Publique PS, renforcer sa position et tenter de convaincre les déçus du macronisme. Sophie Delpont.
Incarner le vote efficace à gauche, c'est l'objectif de Raphaël Glucksmann, selon son porte-parole, le socialiste Pierre Jouvet. En troisième position dans les différents sondages d'opinion, le candidat Place Publique PS serait en tête à gauche et creuserait légèrement son avance devant les listes insoumises et écologistes. Il se rapprocherait aussi de la tête de liste Renaissance Valérie Ayé, que les sondages estiment autour de 18%. Alors pour tenter de convaincre les déçus du macronisme, Raphaël Glucksmann devrait insister aujourd'hui notamment sur le thème phare de la taxation des superprofits. Une idée qui divise au sein de la majorité, comme l'a montré la prise de position de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, vendredi, à qui le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a opposé une fin de non-recevoir. En mettant l'accent sur les objectifs de justice sociale et sur la transition écologique, le candidat Place Publique PS souhaite focaliser l'espoir des sociodémocrates. Accusé d'être un va-t-en-guerre par la France insoumise par rapport à ses positions sur l'Ukraine et notamment son exhortation à passer en économie de guerre pour soutenir Kiev, Raphaël Glucksmann devrait une fois de plus mettre l'accent sur son profil de défenseur des droits de l'homme dans un contexte international très anxiogène et tenter d'incarner une figure de rempart face à l'extrême droite.
Et ce, alors que le Rassemblement national reste le grand favori pour ces élections européennes du 9 juin avec des intentions de vote estimées à 30%. C'est la seule œuvre de Van Eyck que possède la France. La Vierge du chancelier Rollin a retrouvé des couleurs. Après plus de 2 ans de travail, le célèbre tableau du maître flamand, datant de 1435, a retrouvé sa place au Louvre, où il est conservé depuis 1805. Une exposition lui est même dédiée jusqu'en juin. Alors la métamorphose est-elle spectaculaire? Réponse avec Hélène Combis.
Des chemins, des coteaux, des clochers, des cavaliers et des ronds dans l'eau. C'est dans un immense monde miniature que Van Eyck invite le spectateur à plonger. Comme le font le petit personnage au turban rouge et son comparse au deuxième plan, qui tourne le dos au chancelier et contemple le paysage depuis les remparts. Si l'enluminure impliquait depuis longtemps un art du détail, Van Eyck est le premier au XVe siècle à le déployer ainsi. C'est la restauration de l'œuvre qui a rendu ce monde lilliputien à nouveau accessible. Et le regard peut facilement s'y promener, se réjouit Clarisse Delmas. Elle est responsable des ateliers au Centre de recherche et de restauration des musées de France.
On lui a donné une respiration latérale. On peut passer derrière la Sainte Vierge, on peut passer derrière le chancelier, et en fait, on peut passer derrière les colonnes. Chose qu'on ne voyait pas auparavant, parce que les plans étaient complètement aplatis. Du fait de ce vernis, il était caramel.
Lorsqu'il commande cette œuvre, il y a 6 siècles, le chancelier Rollin souhaite avoir un support pour sa prière quotidienne. Raison pour laquelle le tableau est pensé comme un objet et possède un verso. La restauration l'a révélé, une couche de noir de charbon sur laquelle Van Eyck a peint de lumineux cristaux de couleur. La couche de préparation est si épaisse qu'elle est froide comme une pierre, dont l'œuvre a l'apparence, comme l'explique Sophie Caron, conservatrice et commissaire de l'exposition.
C'est un trompe-l'œil de marbre imaginaire, donc c'est une sorte d'objet surréaliste à 2 degrés. On peut vraiment être immergé, médité. Ça évoque le tombeau, ce qui est important dans la prière de Rollin, puisqu'il faut toujours qu'il se rappelle travailler à son salut. Au Moyen-Âge, il y a toute une littérature qui dit que les pierres aident en fait à se libérer des réalités concrètes pour justement accéder à des visions supérieures.
Le public du Louvre pourra dorénavant voir la Vierge du chancelier Rollin et son envers cosmique. En attendant, vous pouvez aussi retrouver des photos de l'œuvre sur le site internet de France Culture à la rubrique L'Info culturelle.
Le temps aujourd'hui frais et nuageux sur une grande partie du pays avec parfois des averses, du soleil dans le sud-est mais aussi du vent. Les températures au meilleur de la journée, 10 à 14 degrés en général, localement 8-9 dans le nord-est, 14 à 16 au sud de la Garonne, 16 à 19 autour de la Méditerranée.